tous les cinémas du monde sur RFI. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéret.
Presentation of the Palme d'Or.
Qui a obtenu la Palme d'Or?
The jury is proud to award the Palme d'Or.
La Palme d'Or est attribuée.
The Palme d'Or goes to.
Ils sont 21 cette année à concourir pour la Palme d'Or. Alors parmi eux, beaucoup d'habitués de la croisette, les frères Dardenne, Claire Denis, Park Chan-wook, et puis quelques figures nouvelles quand même, le Danois d'origine iranienne Ali Abbasi, l'Italien Mario Martone ou encore l'Espagnol Albert Serra. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Qui succédera à Julia Ducournau et à Titane? À qui le jury présidé par Vincent Lindon décernera-t-il la Palme d'Or? Réponse dans quelques heures. Tous les cinémas du monde, émission spéciale sur le pavillon RFI au-dessus de la plage du Majestic sous un soleil de plomb, 32 degrés aux dernières nouvelles. Voilà, émission spéciale pour vous raconter cette folle quinzaine de cinémas avec nos trois invités. Le critique de cinéma tunisien Tahar Chikaoui, bonjour.
Bonjour.
Patrick Stroman, vous êtes critique pour le journal en ligne suisse 21. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Peter de Bruges.
Bonjour.
Vous êtes critique pour le journal professionnel américain Variety. Alors ce 75e Festival de Cannes s'annonçait sous de belles auspices, celles des retrouvailles, des grandes retrouvailles du monde du cinéma après deux années de pandémie, retrouvailles sans masque, mais quand même avec une touche d'inquiétude quand une étude du CNC a jeté ce chiffre inquiétant. 48% des Français déclarent être revenus moins souvent ou plus du tout au cinéma depuis la réouverture des salles. La faute, bien sûr, aux nouvelles habitudes prises pendant le confinement, à cette petite télécommande Netflix ou Amazon ou Apple que les Français ont appris à manier. Même les plus de 60 ans, apparemment, ils voient désormais films et séries dans leur canapé. J'imagine que Peter de Bruges, ça ne vous surprendra pas trop. C'est un mouvement mondial.
Oui, et surtout avec chez nous aux États-Unis, avec les streamers, avec Netflix et les autres, Amazon, Apple, tout ça. Les gens ont trouvé assez du temps pour ajuster leurs habitudes et ils préfèrent de voir des films chez eux. Et c'est dommage parce que pour moi, je n'arrive pas à le faire dans la même façon. Pour moi,
à vous faire à l'idée qu'on peut voir des films sur un tout petit écran.
Oui, le cinéma, c'est une cathédrale. Et Cannes, le Théâtre Lumière, c'est la meilleure cathédrale du monde pour les films. Moi, je m'immerge dans les films comme ça, entouré par le noir et avec juste l'énorme écran devant. Chez nous, c'est différent. Mais en même temps, j'adore le fait que les films, comme les films qui sortent à Cannes, peuvent être envoyés aux gens qui ne les trouvent pas dans leur petite ville ou dans les pays où il n'y a pas des distributeurs. Alors, il y a des pros et des cons avec ça.
C'est ça, il ne faut pas diaboliser non plus les plateformes.
Oui, il va sauver peut-être une partie de ce secteur aussi.
Parce que peut-être que dans des pays où il y a moins de salles de cinéma, enfin, je ne sais pas, tu as Tahar Chikaoui, si c'est en Tunisie, je ne connais pas l'état du parc de salles, mais effectivement, peut-être que pour des cinéphiles, ça peut être une porte d'entrée. Enfin, ceux qui ont les moyens de se payer un abonnement aux plateformes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour en tout cas, les cinéphiles, les jeunes cinéphiles et même les cinéastes, la nouvelle génération des cinéastes, en fait, ont cultivé cette culture cinématographique, pas forcément dans les salles de cinéma, en effet. Sauf que quand on est en manque de salles, le rapport est différent. C'est frustrant. C'est pas pareil quand il y a des salles de cinéma et qu'on voit les films sur des plateformes que quand il n'y a pas de salles de cinéma, on est obligé. Donc c'est plus frustrant par rapport au plaisir que peut procurer une salle de cinéma. C'est quand même un luxe dans les pays où on peut toujours aller dans une salle de cinéma. Je crois que c'est dans la tête aussi. Quand on voit un film sur une plateforme, on sait très bien qu'on peut le voir aussi. Et souvent, je pense, les gens peuvent aussi aller le voir en salle. C'est pas pareil, c'est pas la même configuration.
C'est pas la même expérience. Alors justement, en parlant d'expérience, puisque c'est toujours Hollywood qui mène la danse au Festival de Cannes, au début du festival, c'était pas un hélicoptère comme là aujourd'hui, mais plutôt la Patrouille de France qui offrait un Big Bang à Tom Cruise pour Top Gun. Et mercredi, c'est le King qui a embrasé la croisette, un biopic survolté, extravagant, signé Baz Luhrmann, avec la révélation Austin Butler dans le rôle d'Elvis, et Tom Hanks qui joue le colonel Parker. guitare. Patrick, Peter, vous l'avez vu? Peter, peut-être?
Oui, je l'ai vu. Moi, j'adore Baz Luhrmann en général, avec son style, mais pour moi, ce film, ce sujet, ça reste... C'est presque plus un pub qui dure presque 3 heures ça m'a fatigué très vite dans le film.
Et pourtant, vous aimez bien Moulin Rouge.
Oui,
enfin,
par exemple.
Vous connaissez un peu le style de Baz Luhrmann.
Et il a resté un peu dans cette voie depuis et avec des diminishing returns, de moins en moins avec
chaque film. Des bénéfices
moindres. Oui,
c'est ça. Patrick Stroman.
Alors moi, je n'ai pas vu Elvis. J'ai vu le film avec Tom Cruise, Top Gun. Je pense, j'irai certainement le voir parce que je suis un peu compétent. J'aime beaucoup... Moulin Rouge, et j'ai même un certain faible pour aussi le Great Gatsby. Mais ce qui me frappe surtout, c'est de pouvoir, et je pense pour revenir sur cette discussion concernant les plateformes et en général qui tournent autour de la digitalisation du cinéma, je pense que c'est quand même aussi une chance inouïe de pouvoir voir quasiment le même jour et Top Gun et un film comme Mariupolis 2 ou comme le film de Loznitsa. Qui est en fait un montage
d'images
d'archives qui sont digitalisées.
Extrêmement exigeant.
Et je pense que cette digitalisation permet aussi d'ouvrir énormément le champ du possible du cinéma. Et de ce point de vue, je ne suis pas seulement pessimiste quant à l'avenir du cinéma, je pense que ça peut aussi produire une bonne évolution.
Ça peut aussi se tenir dans ce grand écart.
Tout à fait, oui. You know I can be found. Sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop the hanging of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's still you I'm thinking of.
Don't be cruel du King. Alors, est-ce que ce 75e Festival de Cannes a été cruel avec nous? On va le savoir bientôt avec nos trois invités, Peter de Bruges, Tahar Chikaoui et Patrice Stroman. Alors, en passant à la compétition, une compétition de bon niveau, mais sans éclat, où les vétérans, Claire Denis, les frères Dardenne, Kore-eda, ont déçu un peu ou beaucoup. Cette compétition moyenne, en fait, le tableau des critiques internationales de The Screen la reflète bien, avec des notes finalement très ramassées, qui vont de 1,8 à 3,2 pour le coréen Park Chan-wook, hein, qui est tout au sommet avec Decision to Live. Et puis un très bon score aussi pour le film de James Gray, Armageddon Time, évocation par le cinéaste du New York de son enfance. Je crois que c'est l'un de vos films préférés, Tahar.
Oui, bah, je n'avais pas lu ces chiffres. Oui, c'est un film qui m'a parlé par rapport à ce que j'attendrais du cinéma aujourd'hui, et par rapport aussi à l'endroit à partir duquel je vois les films aussi, c'est important.
en quoi justement il vous a particulièrement touché. C'est, Elisabeth le disait, c'est l'évocation du New York des années 80, mais oui. C'est un film très autobiographique où James Gray raconte un moment de sa préadolescence, hein, en filmant un petit garçon de 12 oui. ans, ses rapports avec son grand-père notamment, sa camaraderie avec un garçon noir, Jonathan.
Oui. Eh bien, il m'a parlé parce que il a d'abord choisi un sujet qui est, comment dire ça, basique dans le cinéma, à savoir la rencontre de soi par rapport au cinéma. Enfin, moi et les autres, quoi. Je trouve que c'est une question essentielle au cinéma, cette rencontre d'une subjectivité avec le monde. C'est, enfin, en général, le cinéma tourne tout le temps autour de ça, y compris pour un spectateur. Je suis là en train de regarder un film. Enfin, et poser cette question maintenant me paraît encore plus intéressant parce qu'effectivement, ça devient un peu problématique, le rapport qu'on peut avoir en tant que personne par rapport au monde. Elle n'est plus ce qu'elle était en 58, quand Truffaut a fait les 400 coups. Parce que d'un coup, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, tout de suite, j'ai pensé à ce que ce film-là a représenté à cette époque-là, à la fin des années 50, pour raconter la société de l'époque, le cinéma de l'époque, et ce qu'un film, aujourd'hui, un peu dans cette filiation-là, dit du monde d'aujourd'hui. Et je trouve qu'il m'a intéressé parce qu'à mon avis, il est arrivé à marier de façon, comment dire ça, presque naturelle, ce qui est très rarement le cas, justement cette rencontre. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il parle de lui, on voit bien qu'il parle des autres. Et quand il parle des autres, tout de suite, on comprend que c'est lui. Et donc, il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Et c'est comme une proposition. C'est comme une proposition par rapport, effectivement, au hiatus, au divorce, au problème qui se pose aujourd'hui entre voilà, l'individu qui se replie un peu sur lui-même ou fond dans la foule, parce que c'est ça, les deux dérives, je veux dire, qui nous guettent aujourd'hui, où on s'enferme complètement dans... soit ou bien on fond complètement dans le monde. Et je trouve qu'il est arrivé de façon simple en parlant de lui-même et d'un moment essentiel aussi dans l'histoire des États-Unis.
Oui, c'est le début des années 80. Voilà. Ronald Reagan n'est pas encore élu, mais il va l'être.
Voilà. Donc quelque chose arrive qui nous...
Et c'est on parle de réussite, mais en fait, il n'y a pas d'égalité des chances.
Voilà. Et ce qui s'est amorcé à ce moment-là, aujourd'hui, nous envahit. Donc il a pris aussi un moment...
Décisif parce qu'on vit encore dans ce moment-là, effectivement.
Ouais, tout à fait.
Peter, vous aussi, c'est un film que vous avez beaucoup aimé. Alors, on a beaucoup entendu...
Pas vraiment, mais en même temps, non, pas du tout. Mais j'ai trouvé que c'est lié avec un thème dans le festival très fort. C'est des moments de nos enfances où on découvre une vérité du monde qui change l'optique, qui change la philosophie de la vie... qu'on découvre que c'est pas juste et tout ça. Là, c'est sur le racisme et comment lui qui est élevé dans une famille très libérale, c'est quoi?
C'est ça, de gauche, progressiste.
De gauche. Oui, c'est vraiment une famille de gauche juif et en même temps, ils sont racistes. Ils se rencontrent pas, ils ne rendent pas compte, mais en même temps, c'est là derrière. Et j'ai vu ça dans le film aussi de nostalgie de Matone, où il revient de Naples, lui. Et là, on découvre que dans son enfance, il était meilleur ami avec quelqu'un qui est devenu un mafioso, un gangster là. Et comment il arrive à régler un peu l'histoire d'un crime d'avant. Les films des Dardennes, c'est aussi, ça tourne autour de... deux jeunes qui viennent de Ghana, je crois, qui sont dans un monde injuste aussi.
L'un vient du Bénin et l'autre, je crois,
du Cameroun.
Du Cameroun.
Oui, oui.
Armageddon Time de James Gray qui trône tout en haut du tableau des critiques en compagnie de Lan Io. À 84 ans, Jerzy Skolimowski a électrisé la croisette avec les tribulations de Lan Ian, digne héritier du Balthazar de Bresson. Patrick Stroman, c'est l'un de vos favoris, je crois, cette année.
Oui, j'ai beaucoup aimé le film, à la fois parce que... Alors, vous mentionniez tout à l'heure les mauvais scores relatifs, disons, mais quand même mauvais scores des vétérans de Cannes. Ce qui m'a frappé, c'est que Deux parmi mes films préférés, à savoir Io, Oui On et Le Cronenberg, sont faits par des réalisateurs qui sont quand même soit au-delà des 80 ans ou l'autre, pour ce qui concerne Cronenberg, il approche. Et je trouve que tous les deux font preuve d'une incroyable liberté dans la mise en scène. Et je dirais même que ça approche un peu ce qu'on pourrait appeler le late style. Il y avait je me suis rappelé d'un essai de Edouard Saïd qui écrivait un texte sur le style tardif
des grands artistes.
Et je pense que là, il y a quelque chose de très émouvant, une simplification et une épure comme ça du style qui m'a rappelé les derniers films, que ce soit de Renoir ou de Manuel de Oliveira. Et je trouve que là, il y a une qualité, une liberté dans la mise en scène que je trouve tout à fait remarquable.
En même temps, c'est un film presque psychédélique.
Alors, c'est l'autre, oui, c'est un film psychédélique. C'est un film qui joue sur plusieurs... Alors, Peter mentionnait tout à l'heure le film de Martone, Naples, enfin, qui s'appelle Nostalgia, qui porte sur Naples. Et je pense que les deux films, celui-là m'intéresse aussi beaucoup. J'aurais pu le mettre aussi tout en haut de mon classement, parce que je pense que c'est des films qui portent sur l'arrière-plan. Et c'est des films qui n'utilisent pas l'arrière-plan pour illustrer leur récit, mais qui créent un arrière-plan dans lequel ils inscrivent un récit. Et je trouve que ce jeu entre premier plan et arrière-plan aussi passionnant. Et je pense que Skolimowski l'utilise pour créer un langage visuel. Et il utilise aussi ce dialogue un peu particulier entre le regard d'un âne et d'un homme.
On est vraiment avec l'âne.
On est avec l'âne.
De temps en temps, il y a des dialogues, parce que évidemment l'âne rencontre des humains. C'est effectivement les tribulations d'un âne. Et il peut bien ou mal tomber suivant les moments, mais c'est quand même une traversée d'un continent, l'Europe. Voilà. Un continent à la dérive.
Il part de la Pologne, il va jusqu'en Italie. Et évidemment, les rencontres se passent plutôt mal. Malheureusement pour lui, il termine terriblement mal. Mais je pense que c'est un point de vue cinématographique. Ce qui est intéressant, c'est cet impossible raccord entre le regard humain et le regard de l'âne. Et c'est là toute la dimension un peu explosive de son cinéma.
Moi aussi, ce film m'a beaucoup, presque pour les mêmes raisons que j'ai citées tout à l'heure, parce que c'est un film qui, évidemment, nous rappelle aussi un film français important. Au hasard Balthazar, avec toutes les différences que vous avez évoquées. Parce qu'on dit qu'on est du point de vue de l'âne, mais un âne amoureux d'une femme. Je pense que son regard, tout le regard qu'il porte sur le monde autour, est marqué profondément par cette relation initiale, amoureuse, avec cette fille. Donc voilà, il y a quelque chose qui me paraît... effectivement...
Complètement singulier.
C'est singulier. Et puis,
c'est l'effet que le film a fait en début de festival. Enfin, tout le monde était un peu... On ne parlait que de l'âne Io.
Je pense que l'âne, ici, n'est pas à prendre comme on a tendance à le faire, comme l'altérité absolue de l'être humain, quoi. C'est au contraire...
Ah non, c'est un âne très anthropomorphisé.
Oui, forcément, puisqu'il porte cette caresse-là, cet amour-là en lui. Donc,
En tout cas, il suscite l'empathie chez les spectateurs.
It is time to stop seeing. It is time to listen.
A new world opens up.
You afraid of a little emotion?
They are evolving away from the human path.
I think it'll be a revelation.
Am I not quite legal?
You fill me with the desire to cut my face open.
Les crimes du futur du Canadien David Cronenberg, une histoire de transhumanisme et d'ablation d'organes dans un monde post-apocalyptique avec Viggo Mortensen en artiste torturé. Je crois que c'est l'un de vos films préférés, Patrick Stroman.
Oui,
c'est un film qui a beaucoup polarisé.
Non, je trouve qu'il est très, je dirais pour le dire de façon succincte, je trouve qu'il est très émouvant parce qu'il reprend des thèmes de Cronenberg qui sont très, qu'il était le premier à traiter, à savoir d'une certaine manière le corps comme ultime limite de la pensée, comme objet de la pensée. C'était radicalement marginal il y a 25-30 ans. Aujourd'hui, il se trouve que c'est un débat qui est tout à fait fashionable et que l'on tient dans toutes les revues qui se respectent. Je trouve que le film est passionnant parce qu'il reprend aussi un thème cinématographique qui lui est très cher. Et si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas vérifié. C'est dans M. Butterfly qu'il met en scène pour la première fois un homme qui est enfermé d'une certaine manière dans sa sexualité un peu difficile, un peu, qui l'amène aux portes de la prison. Et il se libère littéralement en se suicidant. Enfin, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et son suicide a toutes les apparences d'une performance artistique. Et je pense que cette relation entre le corps et la performance artistique est un thème qui traverse son cinéma. On le voit très clairement aussi dans Crash. Et dans ce film-là, il revient à nouveau sur cette idée-là. Et en plus, le tout est baigné, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je pense, dans une atmosphère un peu mi-crépusculaire, science-fiction, qui dit bien qu'il a atteint une certaine maîtrise dans sa mise en scène, dans le contrôle de ses effets, qui lui permet vraiment de situer ses histoires dans une espèce de no man's land, à la fois historique et temporel. Parce que c'est vraiment une incarnation de son œuvre à lui, c'est comme une sorte de récapitulation de son travail. Et puis dernier point, évidemment, ce que je trouve particulièrement touchant, c'est que cette dérégulation des organes renvoie aussi, et j'ai mentionné tout à l'heure l'âge du metteur en scène, qui approche quand même des 80 ans. Donc il y a quelque part une résonance entre son corps à lui, sans doute, et le corps de Viggo Mortensen.
Et Cronenberg a d'ailleurs vendu, mis en vente avant la sortie du film, une NFT, c'est-à-dire l'œuvre numérique d'un de ses calculs rénaux. Donc de quoi faire écho avec...
Il a de l'humour toujours, il a aussi, il fait toujours preuve de beaucoup d'humour.
Peter Tahar,
oui,
est-ce que vous avez aimé ce film qui a été très attaqué ici, ouais. Enfin pas, qui n'a pas été bien reçu.
Je ne sais pas si je dirais que je l'ai aimé, mais je ne l'ai pas non plus détesté. Et moi-même, je suis un peu polarisé comme ça, par rapport à ce film. Parce que c'est un film limite aussi. Il y a quelque chose de très risqué dans cette histoire que je trouve aussi intéressante. Oui. Alors justement, moi, ce à quoi j'ai pensé, c'est l'humour, justement, qui est un humour un peu
décalé,
oui, caché, un peu en arrière-plan, quoi. J'aurais peut-être attendu un peu plus d'explicitation de l'humour. Je sais pas.
Mais je pense que c'est vraiment un comeback pour Cronenberg, dans le sens que c'est ce genre et ce style que nous associons avec lui. Et les derniers films étaient décevants, je crois. Là, il est revenu dans son...
Un peu aux origines.
Oui, oui, oui. Et il travaille toujours dans des métaphores aussi. Et ici, il nous a donné un nouveau métaphore de son œuvre. Et c'est un corps où chaque œuvre, chaque film... C'est un organe qu'il a construit un peu mutante dans son corps.
Et dont l'ablation ne saurait tarder.
Oui, c'est un des blagues un peu bizarres dans le film, mais je pense qu'il travaille sur cette idée que voilà, tout mon corpus d'art est un peu donné petit à petit à vous comme ça.
Alors, beaucoup d'humour noir aussi dans un autre film qui a polarisé la critique, c'est Sans filtre, en VO Triangle of Sadness, du Suédois Ruben Östlund. Donc 5 ans après sa Palme d'Or, il revient avec cette satire du monde des super riches parti sur une croisière 5 étoiles.
Ok, here we are. Oh,
thank you.
I have a joke. Do you know how to tell a communist? Someone who reads Marx and Lenin. And do you know how to tell an anti-communist? Mm-mm. It's someone who understands Marx and Lenin. It's Ronald Reagan, funny guy.
Never argue with an idiot. They'll only bring you down to their level and beat you with experience.
Mark Twain.
Oh, okay. Ronald Reagan, he said also, socialism works only in heaven where they don't need it and in hell where they already have it.
That's pretty good.
Sans filtre de Ruben Östlund, la bande-annonce, je crois que c'est l'un de vos films préférés cette année, Peter.
Oui, moi, j'ai adoré ce film.
Vous aimiez déjà beaucoup The Square, vous étiez venu en parler cette émission.
Oui, mais c'est bizarre le voyage que j'avais avec Ruben Östlund, cet réalisateur suédois, dans le sens que le film que j'ai détesté le plus que j'ai vu ici à Cannes, c'est un film de quinzaine qui s'appelle Play, de Ruben Östlund, où il a mis la caméra fixe. Pendant chaque scène, il n'a jamais bougé, jamais... nous avons donné le travail de faire le film nous-mêmes dans nos têtes. Et je pense depuis là, les trois derniers films qui construisent une trilogie de satire sur la masculinité, sur la société moderne, contemporaine, tout ça. Ils sont très forts. Il a trouvé vraiment et il a aussi montré le fait qu'il il est capable de faire des scènes qui sont... avec du tension, avec de l'humeur, avec tout ce que nous voudrons du cinéma, ou tout ce que je voudrais du cinéma. Je sais bien que Ken adore le style de play, où tout est ralenti, tout est lent, tout ça.
Minimaliste.
Oui. Et pour moi, j'aime quand je suis mis sur un manège.
Un roller coaster.
Oui, un peu. Pas trop vite, mais juste de... quelque chose de bouleversant qui m'emmène quelque part. Et là, il a fait avec le monde des modèles, de la beauté, de la sexualité, de l'argent, tout ça.
Vous, Patrick et Tar, je crois que le film vous a beaucoup plu.
Moi, je m'inscris en faux complètement. Moi, le film m'a insupporté au point que c'est le seul film où j'ai quitté la séance après deux tiers du film, donc je suis peut-être pas qualifié pour en parler, mais je pense que c'est une sorte de théâtre de marionnettes où il charge ses personnages.
Il y a un jeu de massacre. Notamment lors d'une scène de repas catastrophique sur le bateau de croisière pendant une tempête.
Oui, enfin, il y a une dimension scatologique évidente qui est peut-être, on peut dire qu'après Ferreri, on accepte ça, mais c'est même pas ce qui m'a le plus dérangé. Enfin, ça me dérange personnellement, mais c'est pas un critère cinématographique. Ce qui me dérange, c'est qu'il délègue à ses personnages ce qu'ils pensent. Et du coup, on est dans une espèce de jeu de théâtre où on écoute par la bouche de la marionnette ce que dit le marionnettiste. Et je pense que la marge cinématographique... Alors, je suis d'accord, il a un grand talent de mise en scène. Je sais qu'il s'est mené une scène vers la climax, etc. Mais je pense que c'est un cinéma qui laisse aucune marge à ce qui, moi, m'intéresse dans le cinéma, à savoir une espèce de gestuelle qui puisse aller au-delà du scénario. Et de ce point de vue-là, je l'ai trouvé, pour moi, c'est vraiment de loin le seul film que je rejette de cette sélection.
Ce qui me gêne souvent dans ce genre de film, c'est justement lorsque la capacité de faire des films, l'habileté, le brio, l'emporte sur ce qu'on a envie de dire. C'est facile, c'est trop facile, et du coup, l'objet du spectacle devient la capacité du cinéaste à faire du cinéma. Ça n'est pas intéressant. Ça ne devient intéressant que quand cette capacité, de toute façon, on ne peut pas ne pas percevoir, se met elle-même en péril quand elle est au service d'un sujet. Et là, il y a quelque chose qui peut se passer à ce moment-là, une vraie rencontre, un vrai regard, quoi. Alors que là, bah, tout est prévisible. Moi, je ne suis pas sorti avant la fin, mais je voyais bien les choses arriver, quoi. Et puis, je me dis, bon, d'accord, j'ai rigolé, hein, j'ai pas... Mais sans plus, quoi. C'est un peu facile, quoi, je trouve.
Pas plus que ça. Alors, cette année, la compétition qui d'ordinaire, on dit toujours que Cannes, c'est une sorte d'état de vitrine du cinéma mondial. Cette année, la compétition, géographiquement, elle est très resserrée. Sur l'Europe. Alors sans doute la faute à l'épidémie de Covid, pas de Chinois. Bon, pour la Chine, on peut quand même imaginer qu'il y a aussi une sorte de boycott plus ou moins frontal. Pas d'Amérique latine et en revanche, beaucoup de films, donc je le disais, européens. Et quatre films français, Arnaud Desplechin, Léonore Serrail, Claire Denis et surtout l'un des films les plus attendus de ce festival, c'était celui de Valeria Bruni-Tedeschi avec Les Amandiers. Donc, évocation de l'école de théâtre fondée dans les années 80 par Patrice Chéreau. On en écoute un extrait.
Je t'ai attendu cette nuit.
J'ai dormi chez ma mère. Viens, on va se mettre en costume. J'aime ton dos. Voilà. Exactement là.
Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, c'est un film que vous avez aimé, Tar Chikaoui?
Oui, je l'ai aimé ce film. J'ai trouvé ce film comparé aux autres qu'on a cités, français précisément, et aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport à l'autobiographie, etc. Peut-être parce que c'est, je ne sais pas, en tout cas, c'est plusieurs femmes, hein, qui se sont mises sur le film.
Vous voulez dire au scénario.
Le scénario et Noémie Lvovsky. Il y a quelque chose qui m'a touché dans ce film. C'est très touchant. C'est un film très, très touchant. C'est un film sur le passé, mais qui arrive effectivement à saisir un moment de l'histoire de la vie de la cinéaste.
De cette troupe de théâtre.
Mais oui, à un moment aussi. On capte un moment. On capte un moment important. Bien sûr, il y a la question du sida, enfin, toutes ces choses-là, mais c'est anecdotique, enfin, entre guillemets, enfin, c'est important, mais je veux dire, c'est de l'histoire, c'est des événements. Mais il y a quelque chose de très actuel, de très contemporain dans ce regard qui est porté sur cette époque-là, que je trouve effectivement très intéressant.
Peter De Bruges, justement, sur Les Amandiers, c'est un film qui est, alors, en tout cas, si l'on en croit le tableau de screen, mais qui est mal noté par les critiques étrangers. Ouais. Est-ce que vous avez une explication ? Est-ce que c'est très français ? Alors, Tahar, vous êtes tunisien, je sais, mais aussi, vous connaissez bien la culture française. Est-ce que
c'est lié avec le fait que tous les films de Valeria Bruni Tedeschi restent sur sa vie qui est une vie comme la vie de James Gray, un peu. Ça décrit un. James Gray décrit une enfance, mais avec une famille fonctionnelle, avec assez d'argent, pas de grands soucis. Et Valerie Bruni Tedeschi, quand elle reçoit les nouvelles de la mort de quelqu'un de très proche, elle est dans un palais avec un butler à côté.
Un majordome.
C'est des choses comme ça. Et ça tourne aussi dans une atmosphère chargée avec des acteurs. Et des acteurs peuvent être insupportables.
Vous trouvez que c'est trop de l'entre-soi, en fait. C'est peut-être pour ça que ça...
Je pense, oui. J'ai aimé la côté... C'est proche au film de Robin Campillo, pour moi. C'est
120 battements par minute.
Oui, par exemple, ou The Workshop, j'oublie le nom français, qu'il a écrit le film...
L'Atelier,
exactement. Où il nous plonge dans une ambiance mais asphyxiante, mais au même temps, il y a toute cette énergie, toute cette vivacité. C'est intéressant, c'est une petite boule d'un microcosme des gens. Et on voit comment cette société marche entre eux. Mais en même temps, je pense que c'est plus le côté narcissiste ou pas assez éloigné qui a embêté mes collègues anglophones.
Busted flat in Baton Rouge. Une pause musicale dans tous les cinémas du monde avec Janis Joplin, c'est un tout petit aperçu de la BO très riche des Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. Just before it rained, it rode us on the wind to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day up near Celine Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. Yeah.
for me and my Bobby.
Miroir cette année, deux films presque jumeaux venus de deux cinéastes de la diaspora, L'ennemi de Machad du Danois d'origine iranienne Ali Abbasi et Boy from Heaven du Suédois d'origine égyptienne Tariq Saleh. Le premier, c'est un thriller lancé à la poursuite d'un serial killer de prostituées dans les rues de la ville sainte de Machad en Iran. Et le second, eh bien, c'est Le nom de la rose dans l'université d'Al-Azhar, meurtre, complot, lutte de pouvoir vue par un novice au cœur pur. Est-ce que l'un de vous trois l'a vu ?
Moi, j'ai vu Boy
aimé,
from
pas
Heaven.
Aimé.
J'ai beaucoup aimé.
Patrick.
Je trouve que c'est un cinéma très, très écrit, encore une fois, mais enfin vraiment au service d'un propos très, très articulé. Et j'ai vraiment pris plaisir. Je trouve qu'il a un savoir-faire assez impressionnant. Et puis surtout, je trouve troublant et agréablement troublant de voir toute une grammaire cinématographique qu'on connaisse, l'espèce de course-poursuite, les duels, enfin les couteaux qui apparaissent, etc. Et les complots. Mais tout ça se déroule dans un environnement où il y a une mosquée, ou à le
minaret,
pardon. On a une salle de prière, etc. C'est-à-dire ce léger décalement entre une grammaire cinématographique qu'on connaît et un univers qui s'ouvre et dans lequel, du coup, enfin, qui nous devient accessible à travers ce film. Oui, je trouvais ça très intéressant. Et puis, surtout, je pense que c'est aussi le bilan d'une expérience de 10 ans qui a amené les gens à se dire qu'il y a une symétrie terrible entre la violence de l'État et la violence des islamistes. Et je pense que de ce point de vue-là, il est assez implacable.
Tahar Chikaoui. Ben alors vous avez beaucoup moins aimé.
J'ai moins aimé pour les mêmes raisons que toi. Justement parce que justement ce décalage me paraît pas servir le film. Il a phagocyté le récit, c'est-à-dire l'échafaudage qu'il a mis en place, enfin le système cinématographique qui est très 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 fort et qu'il maîtrise vraiment bien. Encore
et
une fois,
c'est un scénario très sophistiqué,
voilà.
Tout en choses.
Alors il est tellement sophistiqué, précisément, que à mon goût, n'arrive pas à justement dire ce qui me paraît important dans cette réalité-là, que je crois connaître. Du coup, il la phagocyte beaucoup. Il aurait fallu peut-être être un peu moins sûr de soi, se mettre un peu plus en péril pour pouvoir percevoir quelque chose de très, très, très complexe par rapport à cette réalité. C'est ça qui m'a beaucoup gêné. On voit le système, on voit les rouages, on voit la machine, on voit l'échafaudage, enfin l'appareil, etc. On voit beaucoup moins les enjeux réels de ce qui sont essentiels. Hein.
Alors c'est on l'a reproché d'avoir fait un film très américanisé, en fait.
Non, moi ça me dérange pas, puisque on en parlait, enfin le film de Youssef Chebbi, puisque c'est le Tunisien qui a fait un film qui s'appelle Ashka, dans la quinzaine des réalisateurs.
Et dont
c'est
on en parlera tout à l'heure.
Voilà. Ben, on en reparlera tout à l'heure. Ben, il a puisé dans le répertoire cinématographique mondial. Ça, c'est pas le problème. C'est pas du tout le problème. Mais le problème, c'est que quand, comme je le disais tout à l'heure...
Quand je disais américanisé, je voulais dire simplifiant les enjeux, justement pour que le grand public international puisse avoir accès à ce film.
Poussant jusqu'au bout, plutôt, je dirais, les choses de la même manière, mais à l'envers, poussant jusqu'au bout le système de mise en scène, d'écriture, etc., au point que effectivement le sujet nous échappe.
Alors le sujet, faut juste le rappeler, c'est quand même une Al-Azhar, c'est la grande institution pour les musulmans sunnites. Hein, je parle sous votre contrôle, Tahar Chikaoui, du monde entier. Ça se situe au Caire. Le grand imam meurt, il faut lui trouver un successeur, on comprend très vite que le naïf et angélique Boy from Heaven, le jeune héros qui nous conduit dans les arcanes de cette institution, va être instrumentalisé par les services de l'État qui veulent choisir, eux, leur grand imam.
C'est ça, voilà. Et du coup, voilà, on assiste à une espèce de confrontation entre le système politique et les frères musulmans qui, effectivement, c'est une
C'est confrérie islamiste.
Islamiste très très fermé, très c'est connu. Enfin ça, on le sait. Hein. Et ça, c'est un sujet. C'est un vrai sujet, quoi. Mais tel qu'il a été précisément
traité
ne révèle pas toute sa complexité, parce que c'est vraiment quelque chose de très très complexe, quoi. Et du coup, on a de regard que pour le système, quoi. On a de regard que pour le système du film, quoi. Et beaucoup moins pour les enjeux.
Alors c'était, je le disais, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, une année en demi-teinte, un peu moyenne, sans aspérité. Mais est-ce que chacun de vous a retenu un film cette année? Alors je sais que vous, Peter, vous avez beaucoup aimé le film de Lucas Dont, Close, qui revient donc 4 ans, je crois, après avoir remporté la Caméra d'Or.
Oui, c'est ça.
Et avec ce film sur l'amitié, l'amitié fusionnelle entre deux jeunes ados.
C'est le même thème duquel nous avons déjà parlé, où c'est un moment important dans les vies des enfants. Ils sont proches, comme le titre du film, ils sont presque frères, inséparables, et ils commencent une nouvelle année de l'école. Et là, il y a un autre étudiant qui les demande s'ils sont ensemble. Un couple. Et ça commence, ça crée une fissure entre les deux, de l'homophobie, c'est jamais expliqué, mais on ressent, c'est très subtil dans ça, comment ils s'éloignent pour se protéger. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, une tragédie, pour moi, qui était un peu trop manipulateur. Et après ça, le film m'a perdu un peu. Mais j'ai trouvé le sens. La sensitivité avec duquel Dont il joue sur le sous-texte, avec des petits gestes, les choses qui parlent à nos expériences à nous. Il est un grand réalisateur, mais je pense qu'il est un peu trop immature toujours dans son... Il veut nous bouleverser, il ne croit pas assez dans la force de l'histoire.
Et vous, Patrick Stroman et Tahar Chikaoui, alors peut-être un film dont vous auriez aimé, dont on n'aurait pas parlé de la compétition, oui. Ou une découverte des sections parallèles.
Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le film qui s'appelle Le Barrage de Ali Chéri. C'est un artiste libanais qui a tourné un film au Soudan. Le film tourne autour d'un homme, enfin, se construit entièrement autour d'un homme qui travaille dans une briqueterie. Il travaille donc avec l'argile, et il travaille l'argile, il est travaillé par l'argile d'une certaine manière. Donc il y a cette espèce de réversibilité entre l'acte créateur et l'homme qui est créé à partir de l'argile. C'est une idée que je trouve très belle. Et puis j'aime beaucoup cette idée qu'un artiste libanais... alors l'arrière-plan, il faut le dire peut-être, du film est aussi cette espèce de bruit d'une révolution qui est en train d'avoir lieu à Khartoum, dans la capitale, éloignée du lieu où est tourné, où se déroule le film. Et cette idée de voir un cinéaste du Liban aller se décentrer par rapport à son origine et son environnement culturel pour aller tourner un film avec ses moyens, lui, avec son regard à lui, est pour moi symptomatique pour ce qui est en train de se passer dans le cinéma nord-africain et... en général, la Méditerranée du Sud. Et je pense que il est tout à fait bienvenu qu'on puisse aussi voir des films faits par par des artistes. D'une certaine manière, des fois, il m'a rappelé un peu le travail de Steve McQueen. Et je trouve ça très bienvenu que sur d'autres continents, on ait la même approche cinématographique.
Vous, Tahar Chikaoui, alors c'est vrai qu'il y avait peu d'Afrique cette année à Cannes, mais une riche sélection tunisienne.
Oui.
Et vous vouliez nous parler en particulier d'Ashkal, qui était dans la quinzaine des réalisateurs.
Oui, Ashkal.
De Youssef Chebbi.
Voilà, Youssef Chebbi fait partie de cette nouvelle génération. Il est co-de cinéastes tunisiens qui se sont fait remarquer un peu avant, pendant, après la révolution, et qui a participé en tant que co-réalisateur à Babylone, ce documentaire qui a été fait par 3 jeunes. Et ce film-là, c'est son premier long-métrage de fiction. Et je trouve ce film, précisément par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du film égyptien, qui est intéressant justement, c'est que Youssef Chebbi, il est parti d'une réalité, un quartier de Tunis, un quartier qui n'est pas achevé, parce qu'il a été arrêté avec la révolution. C'était un quartier sous Ben Ali, hein, qui se construisait sous Ben Ali, et qui s'est arrêté, il est repris maintenant. Et donc, ça l'a intrigué, et à bon escient, parce que c'est son expression, parce qu'il s'agit de ruines, mais ruines modernes, quoi. Et ça, je trouve que cette idée de chantier...
En fait, ce sont des immeubles de luxe qui ont été stoppés, dont la construction a été stoppée par la Révolution. Donc, ce sont des ruines avant même d'avoir été des immeubles.
Et je trouve que cette idée de ruines, qui sont des ruines sans l'être vraiment, est quelque chose de politiquement extrêmement important par rapport à ce qui se passe en Tunisie. Là-dedans, il y a cette image récurrente, figure, puisque Ashkel, c'est figure au pluriel, hein, de l'immolation qui obsède depuis son avènement l'imaginaire.
Et l'immolation, vous voulez dire, l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi.
Bouazizi, et qui revient, hein, qui est récurrent dans la réalité.
Qui a été le point de départ de la Révolution.
Mais qui est aussi une image qu'on n'arrête pas de questionner et d'interroger. Et tout le film, c'est ça, tout le film est un questionnement presque désespéré de cette image-là. Et bon... Et je trouve que ce regard qu'il porte, Youssef Chahine, sur la réalité de la Tunisie d'aujourd'hui est très, très contemporain, vu ce qui se passe, hein, maintenant. Vous savez, on reprend, on remet sur le tapis la Constitution, etc., la démocratie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. On recommence, quoi. Et déjà, c'était presque des ruines, la Révolution qui a commencé. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que précisément, il le fait avec des moyens du cinéma et avec des moyens du genre cinématographique. Et quand on le regarde bien en cinéphile, on voit parcourir à travers tout le film. Ça commence comme fini les Allemagne des Zéro, les ruines. Enfin, on sait ce que ça représente, les ruines dans le cinéma moderne. Et puis ça finit presque comme un film d'une série, quoi. Une belle série, en passant par Antonioni, Blow Up, évidemment. Cette fille qui regarde tout le temps, qui questionne, etc. Hitchcock avec la question des escaliers. Mais tout ça de façon extrêmement simple, discrète. Voilà, on voit bien que c'est quelqu'un qui a vu des films, qui est cinéphile, mais qui a mis sa culture cinématographique véritablement, sans ostentation, sans exhibitionnisme, au service d'un questionnement qui reste quand même très ouvert, justement.
Voilà, Ashkal de Youssef Chahine. Et puis on n'en a pas parlé, mais on en parlera au moment de leur sortie sous les figues d'Erige Seiri et puis Arka de Lofty Nathan. Merci à tous les trois, Tahar Chikawi, Peter de Bruges et Patrick Stroman. Merci.
Merci.
Et on se quitte avec la BO de Un petit frère de Léonore Serrail en compétition aussi cette année à Cannes. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequéré, à la réalisation Fanny Renard et à la technique Richard Rifono.
Dans quelques heures, la cérémonie de clôture du festival à retrouver sur nos antennes. Rendez-vous aussi la semaine prochaine, bien sûr, même heure, même cinéma. On parlera d'un nouveau documentaire en salle, Misraïm, sur le triste sort des Juifs d'Orient avec la réalisatrice Miral Boganim. This is it. Underwater love, it is so deep, so beautifully liquid. Ese amor.